Club, Léandre Béret.
Vainqueur du Tour d'Espagne en 1995, champion du monde du contre-la-montre 2 ans plus tard, roi de 6 classiques, lauréat de 25 étapes sur les grands tours, c'est un champion hors norme qui nous fait l'honneur d'être en direct dans Bienvenue au Club. Il est âgé aujourd'hui de 47 ans, on le surnomme le Panda ou Jaja, il est français, vous aurez reconnu Laurent Jalabert.
Bienvenue au Club.
Bonjour, c'est donc un cycliste d'exception qui a pris place dans nos studios aujourd'hui, Laurent Jalabert, bonjour.
Bonjour.
Vous descendez à peine de votre vélo, vous avez pris part à une sortie avec de jeunes cyclistes jurassiens ce matin. Qu'est-ce que vous lui rapportez sur une virée d'une heure comme ça ?
Oh ben c'est vite fait une heure, hein. Je ne vais pas dire que je leur apporte grand-chose, mais simplement un moment de partage déjà, avec des jeunes coureurs mais qui partagent la même passion que moi. J'ai débuté comme eux, et voilà, on a fait quelques kilomètres côte à côte, on échange, c'est qui ton coureur préféré, et depuis quand tu fais du vélo, tu fais beaucoup de courses. Enfin, c'est surtout moi qui posais des questions d'ailleurs, je crois qu'ils étaient un petit peu timides tous.
Ouais, impressionné je pense. Et qu'est-ce que vous en avez retiré vous-même de cette expérience ?
Ben moi ça m'a replongé pas mal d'années en arrière, hein, à mes débuts, quand voilà, j'aurais rêvé de pouvoir rouler avec un ancien champion. Alors pour eux, c'est sûr que je suis déjà un vieux. Et il y a 14 ans que j'ai arrêté ma carrière, donc la plupart ne m'ont pas vu courir. Mais certainement que leurs parents ont dû leur expliquer. Mais ça m'a apporté... moi, c'était un moment de partage que j'ai apprécié, parce que les jeunes, j'adore les enfants de toute façon. Et le vélo, bien sûr, c'est ma grande passion depuis toujours. Et voilà, c'est de voir ces gamins passionnés qui s'amusent, parce qu'ils s'amusent, hein, et je trouve ça très sympa.
Et du coup, vous avez visité la région un peu ce matin.
Alors oui, on a fait une petite boucle, une heure, mais j'ai trouvé ça très sympa, c'est bucolique, les routes sont belles, il y a peu de circulation, voilà, on est sur une carte
postale. Un paradis du vélo, en fait.
Oui, c'est un paradis du vélo, franchement, oui. Quand on aime ça, c'est une belle région pour faire du vélo. Hein.
Alors, vous étiez hier soir l'invité de la finale de la Coupe des Critériums à Courtaitel. Quelle est l'importance de ce genre de manifestation pour le cyclisme aujourd'hui ?
Je crois que le vélo, c'est un sport tellement difficile qu'il faut d'abord le pratiquer avec envie. La convivialité, c'est toujours quelque chose d'important dans le sport. Et cette manifestation hier a été particulièrement conviviale. On accueille les jeunes et des plus jeunes jusqu'aux parents ensuite. Donc toute la famille est là, chacun fait sa course. Les enfants sont très concentrés, tendus même, mais les parents le sont tout autant parce qu'ils sont là à pédaler à leur côté, en tout cas avec l'esprit. Moi, je trouve que ce sont ces petites manifestations, pas si petites que ça finalement, qui peuvent susciter de grandes vocations.
Justement, c'est le genre d'événement qui vous a poussé à faire du vélo il y a quelques années.
Pas vraiment, parce que moi c'est un pur hasard si j'ai fait du vélo, hein. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Le club local de la ville où je réside à l'époque s'entraînait au bout de ma rue, et le mercredi je les voyais faire du vélo, et un jour j'ai eu envie de les retrouver pour aller battre la campagne avec eux, et c'est comme ça que j'ai démarré. Mais ensuite j'ai à leur côté participé à pas mal de compétitions de ce style, et les Critériums d'ailleurs c'était pratiquement les seules compétitions auxquelles on avait accès, toutes les courses étaient en circuit.
Justement, revenons sur votre carrière longue et belle. Vous êtes passé professionnel à seulement 20 ans, en 1989. Comment, à cette époque, on accédait au peloton professionnel ?
Ben, il faut s'illustrer, avoir un peu de chance aussi, mais beaucoup de talent, je pense. J'ai eu l'opportunité de faire le service militaire, parce qu'à l'époque, on le faisait encore, au bataillon de Joinville, qui était une corporation pour les athlètes d'élite, dans les différentes disciplines sportives. Et moi, j'étais dans la section vélo, bien sûr, et voilà, j'ai participé à des courses internationales. J'ai été sélectionné en équipe de France, et j'ai eu l'occasion de faire le tour de la communauté européenne, pendant le Tour de l'Avenir aujourd'hui. J'ai remporté le maillot vert, terminé 8e. C'est Laurent Fignon qui gagnait cette édition. Et à l'issue de cette épreuve, j'avais séduit une équipe professionnelle. Donc à 20 ans, me voilà débarqué dans le peloton professionnel.
Et justement, très vite, c'était le Tour de France, hein, en première participation en 91. Qu'est-ce que ça représentait pour vous, la grande boucle ?
Ah, c'est une course mythique. Je l'avais toujours suivi à la télé. Ma grande idole, c'était Bernard Hinault. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est la personne qui m'a inspiré. J'ai essayé de m'identifier à lui quand je montais sur un vélo, je me mettais en danseuse comme Bernard Hinault. Bon, j'avais pas la même efficacité, c'est vrai, mais j'adorais son tempérament. Quand il disait demain je serai là, il était là. Et participer à mon premier tour, c'était à la fois une grande excitation, mais aussi beaucoup de stress, parce que c'est une épreuve très difficile. J'ai eu envie de jeter le vélo par-dessus le parapet plus d'une fois, parce que c'est vraiment pénible.
Qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas jeté par-dessus le parapet ce...
Ouais, parce qu'on a un peu de fierté quand même, et tous les amis regardent, la famille, et puis c'est télévisé à travers le monde, donc on se retient. Mais il y a des moments de désespoir hein, quand on est sur le Tour de France, et quand on n'est pas au mieux en montagne, quelquefois on a l'impression qu'on ne viendra jamais au bout de ces difficultés. Mais c'est comme ça qu'on forge un caractère et qu'on progresse en tout cas.
Et qu'on gagne aussi. D'ailleurs, votre première victoire d'étape sur le Tour, ça vient l'année suivante, hein, en 1992. Quelle sensation ça fait une victoire d'étape sur la Grande Boucle?
Bah, c'est un peu la même chose que si on gagnait les 6 numéros au loto, je crois. Moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai toujours rêvé de gagner sur le Tour en me disant, bon, j'y parviendrai jamais. Mais c'était un peu la même chose quand j'étais minime, dans les jeunes catégories. Je voyais les collègues gagner, mais je gagnais jamais. Mmh. Et puis, dès les cadets, les victoires se sont enchaînées. Bon, sur le Tour, ça a été un peu pareil. Ça s'est présenté comme ça. C'était pas forcément la journée où j'étais le plus fort, mais j'étais échappé avec des garçons qui avaient un intérêt à rouler pour le classement général, Greg LeMond et Claudio Capucci. Mmh. Et puis dans les derniers kilomètres, j'ai pu en garder sous la pédale pour leur faire le sprint à Bruxelles. Et voilà, j'ai remporté ma première victoire d'étape sur le Tour à 22 ans. C'était pour moi déjà un énorme succès.
Laurent Jalabert, Jaja, vous êtes tellement populaire en France qu'il y a même des chansons en votre honneur. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Alors c'était un extrait d'une chanson des OnePass intitulée Jalabert. Est-ce que vous l'aviez déjà entendu ?
Alors non, je l'ai entendu la première fois lorsque j'ai tiré ma révérence, lorsque j'ai fini ma carrière avec cette personne qui s'appelle Didier OnePass et qui j'ai découvert par la suite, avec qui j'ai sympathisé, qui est un agent de la RATP à Paris, passionné de vélo, passionné du Tour de France et qui a eu l'heureuse idée d'écrire une chanson sur moi, sur mon parcours, voilà. Je l'ai inspiré, tant mieux. Mais je trouve ça très marrant.
Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir un hymne Jalabert ?
Ouais, je vous l'ai dit, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, c'est un peu... c'est un peu hallucinant, parce que je ne sais pas si je méritais qu'on écrive une chanson à mon sujet, mais j'ai pris ça un peu comme un compliment de sa part, et j'ai eu l'occasion ensuite de le rencontrer et de le découvrir. Il a écrit également une chanson sur Pantani, mmh, et sur d'autres aussi. C'est quelqu'un qui adore le vélo, et qui a fait d'ailleurs plusieurs fois le Tour de France comme ça, en suiveur. Mmh. Voilà, c'est comme beaucoup, un grand passionné de cyclisme.
Alors, quel est votre caractère dans le peloton ? Plutôt sans pitié ou plutôt tendre, comme on vient de l'entendre dans la chanson ?
Moi, je suis un gars sympa. Je suis plutôt un sentimental, quelqu'un d'attentionné. Mais quand on est compétiteur, on peut pas mettre ses sentiments-là en avant. On est là pour gagner. Donc, en respectant l'adversaire, toujours, on ne fait pas de pitié.
Alors, vous êtes régulièrement illustré sur le Tour de France. 4 victoires d'étape, vainqueur à 2 reprises du classement de la montagne, 2 fois du classement par points. Aujourd'hui, il y a un souvenir qui reste plus présent que les autres.
Sur le Tour ?
Sur le Tour.
Sur le Tour, il y en a beaucoup. Alors, les images qui m'ont marqué, c'est d'arriver sur les Champs-Élysées la première fois déjà. Cette belle avenue, plus belle du monde, paraît-il. Sans circulation, ouverte que pour les cyclistes. J'avais une chair de poule incroyable. Et ça me le fait à chaque fois qu'on y retourne. Donc ça, c'est un moment fort. L'aventure se termine. On a hâte d'arriver au bout, mais quand même, en même temps, c'est un pincement au cœur parce qu'elle était belle. Même si on a souffert, si ça n'a pas toujours été une belle réussite. Et quand on arrive sur les champs, c'est quand même un moment de délivrance que l'on n'oublie pas. Et puis les succès, bien sûr, et la communion avec le public, surtout ma dernière saison, sur mon dernier tour en 2002. Lorsque j'avais annoncé que j'allais arrêter ma carrière, le public n'y croyait pas et surtout n'était pas d'accord avec cette idée-là. Et il m'a en tout cas fêté tout au long du parcours en m'acclamant, surtout en montagne, parce qu'on passe moins vite, donc on les entend, les encouragements. Et ça a été vraiment une communion avec le public qui m'a marqué.
Et lors de votre dernière participation en 2002, vous avez obtenu le maillot à pois. Comment on passe du maillot vert, et en 92 et 95 c'était, et un maillot à pois 10 ans plus tard?
Ouais, vous savez, dans une carrière, on évolue physiquement, on évolue psychologiquement aussi, et on s'adapte au temps qui passe. Quand j'étais jeune coureur, j'étais explosif. Je grimpais bien, mais la facilité m'a mené vers les sprints. Rester dans les roues et attendre la dernière ligne droite, c'était quand même plus facile. Et puis, il y a eu en 94 une chute dans la première étape du tour à Armentières qui m'a marqué dans ma chair avec des blessures très sévères. J'ai eu peur dans les sprints ensuite et j'ai changé d'attitude. J'ai adopté une attitude plus offensive comme dans mes jeunes années et je me suis redécouvert en fait des qualités qui sommeillaient en moi mais qui méritaient d'être exploitées. Celle d'un coureur combatif qui finalement est polyvalent, capable de gagner au sprint un petit groupe et puis d'arriver également en solitaire. Voilà. Et puis ensuite, sur le tour, j'ai jamais été le meilleur grimpeur. J'ai gagné deux fois le classement de la montagne. Mmh. C'est quand même une nuance que je tiens à préciser parce que moi, j'ai jamais été le meilleur grimpeur. Il y a toujours eu meilleur grimpeur que moi, mais j'ai fait une course un peu en décalé. Je partais de loin, je prenais les points au sommet des cols, et puis quand le dernier col arrivait avec l'arrivée au sommet, c'est pas moi qui gagnais. J'étais jamais là pour la gagne, on me rattrapait tout le temps.
En épicier donc.
Un peu, c'est un peu ça, oui. En épicier, voilà, j'ai fait mes petits calculs, et le règlement à l'époque pouvait permettre de courir de cette façon pour remporter le Grand Prix de la montagne. C'est plus vrai aujourd'hui, parce que les points sont doublés au sommet des derniers cols, et du coup, ben, c'était pas pour moi, quoi.
Si on regarde bien votre palmarès, on a plutôt tendance à vous associer au Tour d'Espagne que vous avez remporté en 1995. Vous avez gagné 18 étapes sur la Vuelta, 4 succès consécutifs au classement par points. Le Tour d'Espagne, c'était clairement votre terrain de jeu préféré?
Oui, on va dire que les routes espagnoles me convenaient bien. Ça correspondait assez en fait à mes routes d'entraînement. Je suis natif du Tarn, la montagne noire, avec la moyenne montagne, un petit peu comme ici dans le Jura. Pas de très haut sommet, mais toujours un peu difficile. Et en Espagne, c'est un peu comme ça. C'est tous les jours un peu dur. D'ailleurs, le Tour d'Espagne, en ce moment, nous le montre. Il y a parfois des forts pourcentages, mais il y a rarement que du plat. Donc, c'était des parcours qui me convenaient bien et qui s'adaptaient parfaitement à mes qualités de puncher. Et puis, j'étais dans une équipe espagnole aussi. Le Tour d'Espagne, c'était quand même très, très important pour eux.
Alors, parmi vos nombreux succès, on peut aussi relever une victoire finale sur le Tour de Romandie. Qu'est-ce que vous pensez de la Suisse, de la région de la Romandie?
Ben, que du bien. Moi, j'ai vécu 8 ans à Genève. C'est un peu ma deuxième patrie, troisième même, puisque je suis français. J'ai du sang espagnol. J'adore l'Espagne et la Suisse. J'ai vécu 8 ans. J'ai beaucoup d'amis en Suisse et ailleurs aussi. Mais du coup, je trouve qu'on a une vie paisible en Suisse. Il y a quand même une qualité de vie qui est super appréciable et je la retrouve quand je viens ici vous rendre visite. On retrouve ce calme, cette sérénité qu'il n'y a pas forcément partout ailleurs. Hein. Donc oui, moi j'ai apprécié ces années-là en tout cas. C'est une page de ma vie qui s'est tournée il y a quelques temps déjà, il y a 12 ans, ça passe vite, mais qui m'a laissé d'excellents souvenirs.
Super. Est-ce que vous avez mis fin à votre carrière en 2002, on l'a dit avant, hein, pour rapidement devenir consultant pour France Télévisions et RTL? Vous restez en contact avec le monde du cyclisme, est-ce que c'est possible de tirer la prise?
Oui, enfin moi, l'aspect compétition, c'est fini pour moi depuis que j'ai arrêté. Hein. C'était une décision mûrement réfléchie. J'ai jamais regretté cette décision. Et j'aurais pu continuer à rouler encore. J'étais 8e coureur mondial, je marchais bien, je gagnais très bien ma vie, donc il y avait moyen de pouvoir encore en profiter. Mais j'avais un truc qui n'allait pas, c'est que j'étais plus motivé pour m'entraîner. Donc ça, à un moment donné, quand tu fais demi-tour au rond-point au lieu de partir pour 4 heures, non, là, il faut être
lucide. Qu'est-ce qui a provoqué cette démotivation?
Je ne saurais pas l'expliquer. Une lassitude, envie de passer à autre chose. C'est étonnant, hein, mais pourtant, au début de la saison, cette année-là, en 2002, j'étais hyper motivé, je me voyais encore continuer 3-4 ans. Et puis d'un coup, une mononucléose, un repos forcé et une reprise laborieuse où je me suis dit, mince, la vie, elle est sympa quand même à côté. Hein. J'avais fait plein de petits trucs que j'avais pas l'habitude de faire. Et du coup, la reprise de cette vie quand même très exigeante de coureur cycliste m'a pesé et m'a donné envie de passer à autre chose, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je continue à être un sportif, mais amateur. Comme à mes débuts, où je gonfle mes roues de vélo, je réserve mes billets d'avion, ou je prends ma voiture de location ou la mienne pour aller sur des compétitions, mais sans plus rien gagner d'ailleurs, parce que je suis pas assez bon. J'ai vieilli. Mais l'esprit de compétition parfois m'anime. Un petit dossard sur une course à pied ou une cyclosportive, pourquoi pas.
Et vous avez retrouvé la motivation des entraînements?
Oui, ma petite dose. Hein. Ouais. J'aime profiter de la vie, surtout.
Alors, on va quand même un peu évoquer le cyclisme d'aujourd'hui avec vous, Laurent Jalabert. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 15 ans depuis votre retraite sportive?
Bah, beaucoup de choses. Hein. Je crois que moi, j'appartiens déjà à une autre génération. Le matériel a beaucoup évolué, évidemment. La technologie. Aujourd'hui, on a un cyclisme qui est beaucoup plus scientifique qu'à l'époque que j'ai connu. Mais c'est aussi un milieu duquel je suis un peu éloigné, hein, malgré les apparences. C'est vrai que je commente les courses cyclistes, mais je suis pas je suis pas très proche des équipes ou des coureurs qui m'ignorent un petit peu parce que j'appartiens à une autre génération, je suis déjà vieux pour eux. Et dans les équipes actuelles, bon, il y a aussi beaucoup de nouveaux managers, directeurs sportifs que j'ai pas eu l'occasion de côtoyer, donc voilà, c'est un peu un monde secret encore pour moi, ça. Je suis un peu largué, j'avoue. Mais je trouve que ça a beaucoup changé. Alors, je dirais, bon, je parle là aussi, je parle comme un ancien. Je trouvais que c'était mieux à mon époque. Mais, mais je trouve que le cyclisme aujourd'hui est peut-être un peu trop calculateur. Voilà. Il y a moins d'inspiration, moins d'improvisation. On est dans le calcul avec ses watts, avec.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? C'est possible.
Bah, si, ce qu'il faudrait, à mon avis, ce qui serait très bien, c'est de ne pas autoriser en course l'utilisation des capteurs de puissance, qui sont plus dangereux, à mon avis, que les fameuses oreillettes, qui ne servent qu'à remonter des informations, et notamment celles des puissances développées par les différents coureurs. Vas-y, roule à telle allure, à telle puissance, et t'inquiète pas, ils vont pas attaquer. On l'a vécu sur le dernier tour, hein, avec une équipe Sky qui est très forte, qui a été parfaitement managée, et qui n'a pas laissé la moindre chance aux adversaires de Christopher Froome. Ça roulait trop vite, et personne n'a pu attaquer.
Alors, on va passer par l'inévitable question dopage. Aujourd'hui, c'est rare de parler du cyclisme sans en parler. Le peloton professionnel, c'est un milieu pourri?
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un milieu qui a fait le ménage, qui a balayé devant sa porte, comme peu ont osé le faire. Je pense que le dopage, c'est une réalité dans tous les sports, à mon avis. Maintenant, il y en a encore qui n'osent pas l'avouer, qui préfèrent ne pas le voir. Dans le vélo, c'est pas le cas. Voilà, on a fait ce qu'il fallait et on continue de le faire. D'ailleurs, on baisse jamais la garde pour que on continue à croire à la beauté de ce sport parce que c'est un sport magnifique.
Est-ce qu'en 2016, gagner un Tour de France à l'Auclair, c'est possible?
Je saurais pas dire. Moi, je vous l'ai dit, je suis pas partie prenante dans une équipe. J'ai pas accès à ce qui se pratique, mais on a entendu beaucoup de choses au sujet des vélos électriques. Bon, on ne s'en jamais rien trouvé, si ce n'est pour une malheureuse cycliste amateur.
Est-ce qu'on fait vraiment l'effort là-dessus de chercher?
Je suis pas sûr. Hein. Ouais. Je suis pas sûr que tous les efforts aient été faits pour trouver. On a bien trouvé, je vous l'ai dit, c'est une jeune cycliste, et pourquoi pas dans le peloton professionnel. Ça a peut-être existé, mais peut-être n'a-t-on pas cherché là où il fallait. Mais moi, j'ai quand même tendance à penser que oui, c'est un sport qui est devenu très sain maintenant, parce qu'il est tellement contrôlé que c'est forcément très, très, très compliqué de gruger. Mais il faut dire aussi qu'il y a des gros moyens chez certaines formations et que tout est possible, tout est imaginable. Donc, on le sait, les tricheurs ont toujours un temps d'avance sur les chercheurs. Donc il est possible qu'il y ait encore des efforts à faire, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde.
Laurent Jalabert, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci d'être venu en direct dans nos studios.
Merci pour votre invitation.
Bienvenue au club, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, vous retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet. Belle journée, beau week-end.
Bienvenue au club.